Merci, on vous rappelle, le podcast qui vous plonge dans les coulisses captivantes du monde du casting.
Salut à tous, bienvenue dans Merci, on vous rappelle, le seul podcast qui vous plonge dans les coulisses du casting avec des histoires et des parcours incroyables. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir un artiste aux multiples talents, acteur, réalisateur, dont le parcours dans l'industrie cinématographique française nous éclaire sur les enjeux de la diversité et de la représentation. Olivier Kissita, bonjour.
Bonjour, bonjour, merci pour l'invite.
Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Ma première question, ça serait pour toi, Olivier, c'est tu as grandi dans une famille avec une mère guadeloupéenne, un père congolais, et t'es encore là pour en parler?
Écoute, ouais, je suis encore là pour en parler, et en plus, en parler avec beaucoup de fierté, parce que pour moi, c'est une richesse extraordinaire.
Justement, tu veux nous parler un peu des valeurs que tu as apprises à la maison, cette éducation, etc., nous en donner un peu plus?
Carrément, en fait, il y a plusieurs choses. Une des choses, c'était qu'il fallait faire, bien évidemment, c'est une phrase que tout le monde connaît, qu'il fallait toujours faire deux fois plus que les autres, dans le sens où, voilà, on nous voit arriver. Certaines portes peuvent nous sembler fermées. Et donc, du coup, pour y arriver, plutôt que de rentrer par la porte d'entrée, rentrons par la fenêtre. By any means necessary, entre mille guillemets, quoi. Donc, des choses, par exemple, que je retiens. J'ai aussi, donc, surtout du côté de mon père, il y a cette influence très religieuse, très, très spirituelle. Mm-hmm. Donc, voilà, garder une certaine rigueur, une certaine éthique. Voilà. Bon, ce sont deux exemples. Je pourrais parler jusqu'à demain matin. Mais voilà, c'est qui me viennent dès que j'y pense, quoi.
D'accord. Si maintenant on donnait un peu un contexte à nos auditeurs, si tu nous parlais un peu de ton parcours, comment toi t'es rentré dans le cinéma, comment tout ça, ça a démarré en fait?
Oui, carrément. Je suis issu d'une famille très cinéphile. Mm-hmm. Donc, j'ai regardé beaucoup de films, on avait plein de cassettes. J'avais la chance d'aller assez régulièrement au cinéma quand j'étais petit. Donc, la première chose que j'ai voulu faire, c'était effectivement devenir acteur de cinéma. Et donc, notamment, ma mère m'a beaucoup, beaucoup soutenu. Voilà, dès que j'ai pu, je suis allé faire des études d'art dramatique. J'ai fait aussi des stages, j'ai voyagé, etc. Donc, je me suis un peu formé et parallèlement, j'écrivais, j'essayais de me mettre en scène et tout. Je dirais que c'est un peu comme ça que j'ai commencé. Aujourd'hui, ça doit faire peut-être 17-18 ans que je gagne de l'argent avec le métier d'acteur, mm-hmm. grâce à l'acting. Voilà, c'est un peu comme ça que ça a commencé, quoi.
Si tu nous parlais un peu de tes influences, parce que tu parlais de cinéma, d'acting, tout ça, qu'est-ce qui t'inspire, toi, dans le cinéma? Quelles sont tes références?
Alors, c'est une excellente question. Quand j'étais petit, je crois qu'il y a eu deux courants qui m'ont vraiment, vraiment, vraiment inspiré. Premièrement, il y a le courant un peu afro-américain au niveau donc des États-Unis. On a des réals comme Spike Lee, comme Tyler Perry. On a mm-hmm. des acteurs comme Denzel Washington, Wesley Snipes, Will Smith, Samuel L. Jackson. Voilà, moi je voyais souvent ça quand j'étais petit. Des films comme Malcolm X, ce sont des films qui m'ont, ou le Un prince à New York, justement, avec Eddie Murphy.
Mm-hmm. C'est des classiques.
Des classiques avec lesquels j'ai grandi. Et parallèlement à ce courant-là, il y avait les films d'arts martiaux chinois des années 80-90. Donc, en plein de cassettes de Jackie Chan, Jet Li, Donnie Yen, Bruce Lee. C'est un deuxième courant vraiment qui m'a beaucoup, beaucoup inspiré et donné de la motivation qui m'a. Qui... Enfin, en tout cas, ça m'a habité pendant très, 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 très longtemps. Et peut-être que je rajouterai une troisième aussi influence, c'est
Oui.
l'animation japonaise,
Ok.
via les dessins animés.
Les Dragon Ball
Donc,
Z, tout ça.
voilà, tout simplement les Dragon Ball Z, les Ken le Survivant, les Chevaliers du Zodiac, les Ranma 1/2, les Nicky Larson.
Voilà.
Ces trois courants vraiment m'ont donné envie de faire du cinéma. Ouais, je crois que ça vient de là.
Maintenant, j'aimerais qu'on fasse un retour vers le futur. On va en 2015. Toi, en 2015, tu as eu le titre de Mister Afrique.
Ouais, ouais.
Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette
J'ai.
expérience, comment tu as atterri dedans et tout?
Alors, ça, c'est. À l'époque, je revenais des États-Unis parce qu'en fait, je faisais un film, un long métrage. J'ai mis 2 ans pour le faire, pour le réaliser, et je l'ai auto. Donc, le film, c'était un docu-fiction qui s'appelait YouTuber, qui parlait de la création de vidéos sur Internet, pour lequel j'ai beaucoup. Et en revenant. J'ai reçu un mail du comité qui me disait, qui me proposait de participer. Donc, premièrement, c'est pas du tout mon corps de métier. Je suis vraiment pas à l'aise avec toutes ces histoires d'être modèle et tout. Donc, au début, j'ai dit non et continué mon organisation. Et à un moment, je sais que ça m'est revenu en tête, mais pas pour que je le fasse et que je le gagne, mais plus dans l'idée de j'ai eu une proposition qui sortait, qui venait d'un comité jeunes noirs de France, et je crois que je leur avais même pas répondu au début. Je me suis dit, ah, c'est dommage, ils essayent de mettre en valeur. Donc, le prix, c'était Mister Afrique France. Voilà, très certainement qu'ils n'ont pas beaucoup je sais pas, de contacts, de moyens, etc. Donc, je me
Bien
suis dit,
sûr.
au moins, réponds-leur. Et vas-y, quoi. Si tout le monde fait comme toi, ça va pas fonctionner. Donc, j'ai pas du tout accepté pour gagner. Et donc après, j'ai fait voilà tout ce qu'on m'a demandé. C'était pendant peut-être je sais plus, peut-être 2 3 mois de préparation pour la cérémonie. Et au final, j'ai gagné. J'étais le premier surpris. Mais ouais, ça m'a appris plein de choses et j'ai rencontré plein de gens, c'était cool.
Ah, c'est génial. Une belle expérience. En plus, j'aime bien ce côté t'as de soutenir la cause des autres. Si tu les laisses pas tomber, tu te dis, bah, si moi je les aide pas, qui les aidera en fait? Ma prochaine question allait être, comment t'as fini dans ce projet?
Bah, c'est ça, c'est que au tout début, au début, on m'a pas dit, on m'a pas expliqué toute la scène. Comme je t'ai dit, au casting, on m'a donné une ou deux réponses. Pour que j'aie vraiment toute la scène, il a fallu que j'attende des semaines, des mois. Et comme je t'ai dit, même au final, au jour du tournage, la scène n'était pas calée.
Ouais, je vois,
Donc,
ouais.
voilà, au début, j'ai dit oui pour certaines choses, mais au final, sur le tournage, c'est pas du tout ces choses auxquelles j'ai dit oui. Et donc, j'ai dû dire non à certaines propositions. En gros, ce que vous avez vu, c'est pas du tout ce qu'on m'a dit de faire le jour du tournage. Il y a des choses auxquelles j'ai dit
Je comprends, ouais. Du coup, quel souvenir t'en gardes, toi, en fait?
de ce tournage.
Ouais.
Je garde de ce tournage. Je suis dégoûté par rapport à Adèle, parce que je lui ai. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on vient de parler. Avec Adèle, il y a un accident incroyable. Donc, par rapport à la Corée, elle aussi, on l'avait répété pendant plusieurs semaines sur le tournage, tout a été. Bref, il y a eu énormément d'imprévus, etc., etc. Et donc, j'en Adèle, je lui disais attention, il faut bien qu'on se cale et tout, parce que. Et euh, un moment donné, Adèle me dit ouais, viens, on l'a fait à vitesse réelle. Et je lui dis, t'es sûr? Parce que voilà, je sens que ça va être chaud et tout. Oh, t'inquiète, t'inquiète, là, on est bien et tout. Et après, on tourne, ça va aller. Et on l'a fait à vitesse réelle. Elle est censée à un moment esquiver un crochet, elle esquive pas, et donc du coup il y a un impact. Et en fait moi là, elle m'avait mis un coup de coude dans le nez. Et pendant qu'on tournait, c'était pas pendant des répètes, c'était pendant le. Et donc il y avait eu ce coup. Et en gros voilà, c'est les risques du métier entre mille guillemets. Mais bon, je suis pas vraiment en cadreur, mais même en tant qu'acteur, voilà, c'est possible. Et donc quand il y a eu ce coup-là, bizarrement, c'est comme si j'avais repensé à ce qui s'était passé la veille et je me suis dit, oh, c'est rien. En gros, moi j'ai eu le coup hier, il s'est rien passé. En un quart de seconde, c'est comme si je m'étais dit, ouais, bon, elle a eu ça. Je suis désolé, mais il y a rien. Et en fait, elle est tombée. J'ai eu du sang. Et elle a eu une. Enfin, c'était un truc extraordinaire. C'était, j'étais vraiment, j'étais, et donc je me suis vraiment mal senti, j'étais dégoûté pour elle. Je me suis excusé des milliards de fois et tout. Et elle me disait, non, t'inquiète, c'est pas de ma faute. Même le régleur de la il disait que c'est pas de ta faute. Toi, t'as fait le mouvement, c'était à elle
D'esquiver.
d'esquiver, quoi. Mais malgré tout ce que j'étais trop mal. Donc, c'est vraiment ça que je me souviens de ce tournage-là, c'est que la pauvre, son nez s'est cassé, quoi.
Est-ce que vous êtes resté en bon terme après depuis?
Ah oui, bah, comme je t'ai dit, pour elle, c'est pas de ma faute. Pour le régleur des cascades non plus. Et puis elle est cool. Elle est très très simple. Hein. Adèle, elle s'en fout de plein de choses. Donc on en a même rigolé, quoi.
Tant mieux. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne un peu sur ton parcours. Tu parlais du documentaire YouTubeur. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus comment est née cette idée d'aller voyager dans le monde, rencontrer les autres YouTubeurs un peu? Comment c'est né tout ça en fait?
Donc à l'époque, je faisais des programmes courts sur Internet et je me suis laissé avoir un peu par ce schéma-là de, au début, tu fais une ou deux vidéos, après tu vois qu'il y a du retour et qu'il y a de l'engouement, donc tu en fais trois, quatre et après tu te retrouves obligé de faire des vidéos. Et à la base, c'était pas forcément ces vidéos-là que tu voulais faire. Moi, depuis que je suis petit, c'est du cinéma que je veux faire. Donc, les premiers contenus, on va dire, que j'ai mis sur Internet étaient très cinématographiques. Et à un moment donné, j'ai commencé à faire plus des programmes courts, plus de l'humour, etc. parce que je voyais que ça fonctionnait encore plus sur ma chaîne. Je m'éloignais un peu de ce que je voulais faire. Donc, j'ai mis en suspens mon activité sur Internet et je me suis dit que j'allais reprendre des formats beaucoup plus ciné. Et donc, j'avais en tête des longs métrages. Et avant de faire, pour moi, c'est un peu le long métrage de fiction, le gros drame. Avant de me lancer dans un gros drame, je me suis dit que j'allais me lancer dans un cul. Et ce que j'ai fait. Concession, c'est que j'ai fait docu-fiction. Il y a une grosse partie docu, mais aussi pas mal de scènes de fiction. Donc, c'est comme ça que est née l'idée. Et après, je me suis dit, par rapport au thème, par rapport à ce que je voulais montrer, que j'allais parler un peu de ce que je vivais. Parce que c'est vrai que j'étais comédien, mais j'étais aussi, en tout cas à cette époque-là, j'étais beaucoup, je faisais beaucoup de vidéos sur Internet. Et donc j'ai essayé d'expliquer en fait comment on en arrive à faire des vidéos sur Internet, un peu ce mouvement qui était relativement jeune à l'époque quoi. Le film, je l'ai terminé, je crois en 2015, un truc comme ça. Donc à l'époque ouais, c'était plus neuf qu'aujourd'hui quoi.
Moi, c'est à cette époque-là que je t'ai connu parce que j'avais découvert des vidéos que tu faisais à l'époque. Ça s'appelait qu'on arrête de. Tu sais, genre qu'on arrête d'embêter les gens faibles dans le métro, qu'on arrête de draguer les filles, etc. et tout. Et d'ailleurs, il y a une très belle scène de combat qu'on arrête d'embêter les gens faibles. C'est toi qui avais chorégraphié les combats dans cette scène?
Ouais, qu'on arrête de s'en prendre aux plus faibles dans le métro.
Oui.
C'est l'une des seules vidéos où je me suis un peu autorisé à mettre de l'action. Ouais, j'ai chorégraphié et je me suis, j'ai travaillé avec des amis Moussa Sacco, Hugo Barillet, mon troisième ami, oh, il va m'en vouloir que j'oublie son nom. Ah, je suis dégoûté, mais Kefi, et le nom de famille, j'ai oublié. Je suis vraiment désolé, Kefi. Mais trois personnes en or, qui en plus, eux, dans le cinéma d'action, étaient beaucoup plus, avaient beaucoup plus d'offres, avaient beaucoup plus d'expérience que moi. Mais ils se sont pris au jeu, et le jeu, c'était bah, faire une vidéo internet sans moyens. Dans la rue, cette vidéo, elle se faisait à la gare de Lyon, si je me souviens bien, enfin, en tout cas la scène d'action. Donc ils se sont prêtés au jeu et franchement c'était cool quoi.
Oui, parce que je voyais, t'arrivais à tourner dans le métro, est-ce que c'était facile ou t'avais les autorisations ou c'était à l'arrache que tu faisais tout ça en fait?
Arrache, jamais eu d'autorisation. Arrache, on allait là où on pouvait et quand on nous disait de bouger. On allait dans une autre station pour tourner. Je me souviens d'ailleurs que plus tard, bien après cette période de vidéo dans le métro, j'ai eu un rendez-vous avec la RATP qui était intéressée. Et on a eu d'ailleurs plusieurs rendez-vous, mais ça n'a jamais été concluant. Il y avait toujours des problèmes de je sais pas quoi, de budget ou je sais pas quoi. Donc ça s'est jamais fait.
C'est dommage parce que c'était une belle pub pour eux en tout cas.
Très belle pub pour eux et autant ces vidéos, parce qu'à l'époque il y avait des millions de vues sur YouTube, c'était pas aussi facile de faire des millions de vues à l'époque. Autant c'était vu par les gens qui me suivaient, autant même la RATP était intéressée
Regardez.
quoi donc.
Non, c'est génial. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu de ton parcours. Je t'ai vu dans différentes séries, comme tu as joué dans Cut, je t'ai aussi vu dans Cacao. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces expériences?
Carrément, Cut, c'est donc je crois que c'était 2016. C'est l'un des premiers rôles, on va dire, un peu plus complexe, un peu plus conséquent qu'on m'avait
D'accord.
proposé avant. Des rôles beaucoup plus légers. Et en fait, bon, pour l'anecdote, pendant des années, j'essayais, donc j'ai fait plein de castings et tout, j'essayais d'avoir des rôles, c'était très compliqué. Et ce rôle-là, donc ce premier rôle un peu plus sérieux, je l'ai eu bah, grâce à YouTubeur. Je l'ai pas eu grâce à des castings ou grâce à mon réseau ou quoi. Je l'ai eu grâce à YouTubeur. J'ai fait ce film, donc j'ai fait un long métrage et après, j'ai en indé, hein, j'ai organisé plusieurs Projo, dont une projo chez Google France, avec qui on s'est mis d'accord que ça traitait de YouTube, de Google, de la création de vidéos et tout. Et lors de cette projection, j'avais invité plein, 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 plein de gens, donc des créateurs, des acteurs, des réals, des amis, de la famille et des gens du milieu, donc enfin du milieu audiovisuel et cinématographique. Donc bon, la plupart des personnalités que j'ai invitées ne sont pas venues, mais il y a une personne de France Télévisions qui est venue et après qui m'a proposé un rendez-vous chez France Télévisions. Donc j'y suis allé. Lorsque j'y suis allé, on a France Po qui m'avait proposé d'animer une série, une émission que j'ai faite, le One Man Show. Et après, pendant ce rendez-vous-là, il y a une personne en plus, qui a parlé comme ça, dans sa barbe, hein, d'un casting. Et donc, direct, j'ai fait, de quoi vous parlez, le casting, machin? Ah, mais ça vous intéresse pas, le casting? J'ai fait, si, je sais, moi, je suis là. Donc, j'ai fait le casting que j'ai eu. Et après, j'ai rencontré le producteur et, enfin, l'un des producteurs. Et pareil, une autre petite anecdote, le producteur me disait, oui, tu sais, moi à la base, ton rôle, parce que le rôle s'appelait Irfan, oui, nous, on voulait un rôle d'origine maghrébine ou rebeu, un truc comme ça, parce que il n'y a pas de pays africain noir en guerre. Il me dit ça comme ça. J'ai dit, pardon? Il me dit, ah oui, le rôle, il est censé sortir de son pays d'origine en guerre et venir à l'île de Réunion pour devenir un avocat. On aimerait bien que ce soit toi, mais ça n'existe pas. Donc, je lui ai parlé de plein de trucs, y compris de la guerre en RDC.
Bien sûr, au Congo, oui.
D'ailleurs, à la fin. D'ailleurs, à la fin de YouTubeur, je parlais en 2015 des minerais de sang, des guerres, du génocide. Et donc, je lui ai parlé de la RDC, je lui ai parlé de mon livre, de mon film. Et du coup, après, ils ont parlé en interne, ils ont changé le personnage et ils m'ont pris pour le rôle. Mais ils ont gardé le nom Irfan, qui était un peu bizarre. Mais bon, bref. Donc voilà, Cut, c'était top parce que je suis parti 4 mois à l'île de la Réunion. Travailler sur une quotidienne, c'est très formateur. Tu dois apprendre très très vite. Tu dois comprendre les enjeux de la scène très très vite. Souvent, tu dois apprendre la veille pour le lendemain. T'étais formateur et j'ai rencontré plein de gens. Pour Cacao, là, c'était mon premier rôle proposé en Afrique francophone. Donc c'était magnifique, d'autant plus que depuis quelques années avant ça, je réfléchissais et je réfléchissais à une manière de travailler en Afrique. Donc j'étais parti pour mon long métrage YouTubeur, j'étais parti en donc du coup c'était en 2015 à Brazza et j'avais tourné. J'avais interviewé plein de gens et donc comme je t'ai dit j'avais parlé du fait que au Congo cette guerre en fait par rapport au coltan le coltan le cobalt et tout
Ouais, le cobalt, oui.
des minerais qu'on peut utiliser pour les batteries
Les
pour les
téléphones portables.
béliers et Et donc, l'une des problématiques de mon film, c'était qu'on disait, en fait, surtout à l'époque, on disait, maintenant, tout le monde peut faire des vidéos sur Internet. Maintenant, la création sur Internet est disponible pour tout le monde. On n'est plus obligé de dépendre de la télé, du cinéma. Et donc, l'ouverture de mon film à la fin, c'était, est-ce que réellement tout le monde peut le faire? Et c'est pour ça que j'ai intégré le côté africain et enfin en tout cas congolais quoi avec la guerre et tout. En 2015 j'avais déjà commencé à bosser en Afrique au niveau de la réal et tout mais je voulais bosser en tant que acteur. Et donc quelques années après j'ai cette proposition donc je suis super content et donc je connaissais pas du tout la Côte d'Ivoire j'y vais et donc je rencontre une grosse équipe, un projet vraiment extraordinaire, très bien écrit, avec des très beaux rôles, des rôles complexes, des rôles principaux, des rôles valorisants. J'ai vraiment adoré l'expérience, quoi.
C'est réalisé par Alex Ogou, c'est ça?
Très bon réalisateur ivoirien qui avait déjà fait autre projet, il avait fait une série qui avait beaucoup marché, qui parle des microbes, donc les enfants à l'époque qu'on retrouve dans la rue un peu violents, dans la délinquance et tout. Donc le projet s'appelle Invisible et il avait vraiment bien fonctionné en Côte d'Ivoire. Et ensuite il a suivi pas longtemps après avec Cacao qui a vraiment bien fonctionné aussi en Côte d'Ivoire et en Afrique en règle générale.
Est-ce que toutes les scènes de Cacao ont été tournées en Côte d'Ivoire ou vous avez été à Toronto? Parce qu'il y a un épisode qui se passe à Toronto, mais j'étais pas sûr si c'était juste des images que vous avez prises ou si vous êtes vraiment allé sur place en fait.
On a tout tourné en Côte d'Ivoire, mais on a des décors qui peuvent faire croire qu'on est à l'étranger, quoi.
D'accord.
Mais ouais, c'est ça là.
La magie du cinéma, oui. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu de ton parcours en tant que réalisateur. Tu sais, tu as réalisé un moyen métrage qui s'appelait L'art de la guerre des sexes. Est-ce que tu peux nous parler un peu quel était le message que tu essayais de transmettre derrière?
Alors, l'art de la guerre des sexes, ça parle, en fait, c'est deux couples d'amis qui se retrouvent lors d'une soirée appartement un samedi soir. Et qui en fait, il s'avère que ils se mettent à sortir un peu les dossiers, un peu tous les trucs qu'on veut garder secrets. Il est sorte, tout est sorti et mis sur table et voilà. Et puis vers la fin de l'histoire, on se rend compte que cette soirée appartement a priori anodine est beaucoup plus spéciale que prévu. Donc j'ai voulu parler des couples en règle générale. J'ai voulu parler de la confiance. Est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire? J'ai voulu parler du côté un peu contemporain du couple, avec les réseaux sociaux, avec tout ça. Et je voulais aussi mettre en avant une femme noire, parce que je trouve que c'est trop rare, dans un rôle valorisant, dans un rôle d'être humain, tout simplement, pas de cliché, du noir,
Bien sûr.
fantasme, de la... Et voilà, c'est grâce à ce projet-là que je voulais un peu toucher à tout ça, parce que ça, c'est pour moi, c'était très important. Et je suis content parce que le film, il a beaucoup voyagé en festival, il a gagné plusieurs prix. Il a aussi été diffusé sur TV5 Monde. J'avais fait une avant-première en Côte d'Ivoire, et après j'avais commencé une tournée, bon, qui a été arrêtée à cause du Covid, mais une tournée africaine. J'avais fait Abidjan, Lomé, Ouagadougou. Je voulais aller au Congo, je voulais aller au Sénégal et tout, mais bon, bref. C'était vraiment un très beau projet.
Et les retours que tu as eu sur ça, est-ce que comment le public avait accueilli ce moyen métrage?
Les gens ont beaucoup aimé. Les gens, ce que j'adore, moi, dans les films, c'est les twists. Et donc dans ce film, il y a un twist, je ne sais pas si c'est un spoil de le dire, pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais on a beaucoup parlé de la fin. Et l'une des choses que je voulais, en fait, c'est que vu que c'était quelque chose que j'ai pas eu de financement pour le faire, etc., on l'a fait avec Kiss et un ami à moi aussi qui a coproduit, donc Aziz Aboudra, il est aussi un comédien. En fait, l'une des choses que je voulais, c'était que, comme on n'avait pas beaucoup de projets, de financement pour ce projet, donc on avait un budget restreint, je voulais miser sur le jeu plutôt que, je sais pas moi, les effets spéciaux ou la multiplication des plans en extérieur, ou voilà, je voulais qu'on dise que le film est bien, notamment grâce au jeu d'acteur qui est très bon. Et étant donné que le film est un huis clos, l'une des choses difficiles quand tu es dans un huis clos, donc quand il y a un seul lieu, une seule unité de lieu, l'une des choses qui est compliquée, c'est que très vite, ça peut être soporifique, très vite, ça peut être ennuyeux. Et
Bien sûr.
on a l'impression que un peu. Voilà, ça fait pas rêver.
C'est ça.
On reste au même endroit, donc c'est ennuyant, quoi. Et donc, on a beaucoup répété avec les comédiens pour que ce soit crédible, pour qu'on ait l'impression, en tant que spectateur, de participer à cette fameuse soirée appartement entre amis. Moi, au niveau du scénario, j'ai essayé à chaque fois de... Donc le film, il fait 35 minutes, 36 minutes, je crois. J'ai essayé à chaque fois de mettre des temps forts et de les répartir de manière un peu homogène pour qu'on s'endorme. Donc par rapport au retour, il y a des gens qui m'ont dit, j'ai même pas eu l'impression qu'on était au même endroit, tellement j'étais dedans. La
C'est
fin,
cool.
on m'a beaucoup parlé de la fin et tout. Donc voilà, j'étais très content.
Ah bah c'est génial, ça fait un beau travail là-dessus alors. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de ta vidéo qui tourne en ce moment sur Internet, qui fait un peu le buzz. La vidéo, ça s'appelle « Je suis un acteur noir en France », où tu abordes un peu les thèmes de la diversité, l'absence de la représentation des noirs dans le cinéma. Peux-tu nous en parler? Comment cette idée est née? Quel est le message derrière? C'est quoi tes motivations?
C'est Alors, premièrement, il s'agissait de rendre hommage, en fait, aux acteurs que je connais, que je côtoie, dont j'ai entendu parler et qui font partie de cette communauté d'afro-descendants qui travaillent en France, mais dont on ne parle pas souvent, qui sont sous-représentés, etc. Après, deuxièmement, je dirais qu'il y a tout simplement cette trend que tout le monde connaît depuis quelques mois. Je suis trois petits points, bien sûr que trois petits points, qui vise à lister les clichés d'un point de vue un peu humoristique. Je suis grand-mère, bien sûr que mes enfants me demandent de l'argent toutes les semaines ou mes petits-enfants me demandent. Donc voilà, j'ai vu cette traîne et je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de se l'approprier. Après, je dirais aussi que j'essaye à chaque fois de mettre un minimum de messages dans mes réalisations, l'art de la guerre des sexes, youtubeur. En fait, j'essaie à chaque fois de lier la forme au fond, l'utile à l'agréable, quoi. En fait, pour moi, juste faire un truc parce qu'il est drôle, je trouve que c'est un peu dommage, que forcément, il pourrait avoir de la place pour placer un petit message. Donc, c'est un peu pour tout ça, je crois, que la vidéo, est née.
Bah, moi, j'aimerais déjà te remercier pour cette belle vidéo parce que déjà, tu as permis de mettre en lumière des acteurs noirs qu'on connaissait pas forcément en fait. Parce que nous, la liste, elle peut se limiter à Omar Sy, comme tu dis, si t'es 9e dalle, Pascal Zidi. Mais après, tu vois, le reste, on connaissait pas du tout en fait.
Ouais, bah c'est malheureux. Après, bon, nous ne sommes que des acteurs, donc j'imagine qu'il y a plus important dans la vie de tout un chacun. Mais le cinéma, c'est important pour plein de choses. La représentation est importante, la représentativité est très importante. Du coup, il faut, quand on peut, je pense que c'est important qu'on puisse rendre hommage aux personnes qui travaillent souvent dans l'ombre, qui sont victimes de plein d'injustices. En tout cas, là, en l'occurrence, c'est même pas réellement objectif, vu que moi-même, je suis acteur et je travaille avec cette liste que j'ai à la fin de ma vidéo. Donc, pour moi, c'était une évidence d'essayer de mettre en lumière ces gens-là et de mettre en lumière ce qu'on vit. Alors après, ça reste sur un ton drôle, humoristique. Hein, je suis pas un homme politique, je suis pas majeur, un acteur qui réalise aussi. Mais pour moi, c'est important, quoi.
Oui, je comprends. Tu veux pas avoir ce rôle de porte-drapeau, en fait, comme on dit.
Voilà, c'est pas mon métier, c'est pas ma passion, c'est le cinéma. Et peut-être que ma deuxième passer des messages, peu. Première passion, j'étais là pour. Si je peux faire changer les choses entre mille guillemets à travers mon cinéma,
Bien sûr.
c'est super. Mais je suis non plus à devenir voilà politique, créer un parti, voilà, c'est ça m'intéresse pas, ça.
Tu sais, au début de l'émission, tu parlais un peu de tes influences américaines. Selon toi, justement, qu'est-ce que l'industrie française pourrait apprendre comme approche des Américains? Tu sais, quand on regarde les films américains, bah, le noir, il va être policier, il va être juge, il va être avocat, il va être médecin. Selon nous, qu'est-ce que nous, on devrait modifier pour avoir un peu cette approche?
On devrait s'ouvrir, tout simplement, parce qu'on est très conservateur en France. On est conservateur ici, et on est conservateur dans pas bouge. Ceux qui ont les clés, j'ai l'impression qu'ils sont vieux, vieillissants, et
C'est ça.
qui appartiennent à la même Mais sauf que la vie, elle continue, que la jeunesse est là, que le métissage est là, qu'on est dans une société ouverte, mondialisée, bref. Donc, il faut qu'on s'ouvre, qu'on devienne beaucoup moins conservateur, et qu'on puisse arriver à voir la valeur de tout un chacun. Donc, on est en France, si on est une majorité de blancs en France, eh ben, les blancs, c'est super, il y a de la valeur chez vous, mais il y a aussi de la valeur dans tous les autres, chez tous les autres Français, parce qu'ils sont français aussi. Et donc,
Bien sûr.
si on a réellement cette idée d'égalité, fraternité, liberté, égalité, fraternité, ben, ça voudrait dire que lorsque tu es français, tu es libre, tu es égal. Et tu dois faire preuve de fraternité comme tous les autres. Donc, voilà, je pense que. Donc, d'ailleurs, pareil, souvent on dit oui, mais c'est pas la même histoire, oui, mais ceci, cela. C'est vrai que c'est pas la même histoire, mais il y a des caractéristiques qui sont communes, qu'on le veuille ou non, qu'on veuille bien le connaître ou non. Et l'une des caractéristiques communes, c'est que bah, ce sont deux terres, les États-Unis et la France, deux terres où. On a pris une grosse partie de Noirs, on les a mis ici, on les a fait travailler. Et en fait, ces Noirs maintenant font partie du paysage à part entière, font partie de la société, ont les mêmes droits normalement que les autres. Donc, on devrait pouvoir les retrouver. Au même endroit que les autres. Et on devrait pouvoir les retrouver de manière aussi valorisante que les autres. Donc voilà, moi je pense que même si aux États-Unis il y a plein de problèmes, même
Bien
si
sûr.
que la population noire est victime de racisme, de brutalité policière, de plein de problèmes. En tout cas, on a eu des personnalités qui ont réussi à s'intégrer, à être respectées, qui sont soutenues et qui sont diffusées mondialement. Et c'est pas aussi évident en France. Par exemple, quand on compare les deux cinémas n'ont rien à voir. Donc, bien évidemment que qu'il y a des complexités en France qu'il n'y a pas là-bas. Mais je pense que c'est toujours. Si on a par exemple une vraie politique volontariste d'intégration, de représentation, etc., de tout le monde, et du coup bah, des Noirs aussi, je pense que ça pourrait avancer un peu plus vite. Si on a une prise de conscience. De la part de tous, y compris, par exemple, je sais pas, je prends un exemple, les sportifs de haut niveau noirs, ce sont des personnes qui investissent beaucoup dans des ONG,
Bien
et c'est
sûr.
super bien. Le cinéma, je sais pas si on est tous conscient de l'importance du cinéma. Je ne sais pas si on est tous conscients du privilège que confère un cinéma puissant. Je dis souvent, pas les États-Unis sans Hollywood. Grâce à Hollywood, il y a eu l'établissement de l'American Way of Life de manière mondiale.
Bien
Il
sûr.
y a un soft power extraordinaire dont jouissent les États-Unis. Notamment grâce à Hollywood. Et il y a eu des moments où les films, les images, les publicités ont été clairement, concrètement, des outils de propagande.
Bien sûr.
Donc, je me dis que c'est à ça qu'on doit, c'est ça qu'on doit faire. Mais ce que je veux dire, c'est que le cinéma, c'est important. Dans l'imaginaire, pour stimuler la jeunesse, etc. Donc, si la communauté noire est mal représentée donc dans le cinéma, dans l'audiovisuel. En fait, on part avec. C'est comme si on partait débiteur, en fait, par rapport à
Bien
d'autres
sûr.
personnes qui sont bien en tout cas qui sont mieux représentés. Donc voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question.
Non, t'as répondu à ma question, ça me permet même de rebondir parce que ce que tu dis là sur la représentation, c'est très important. Je sais pas si tu te rappelles de l'époque quand Disney avait sorti La Petite Sirène et que c'était une actrice noire qui jouait La Petite Sirène et quand tu voyais toutes ces vidéos sur Instagram ou TikTok de jeunes filles noires qui découvraient pour la première fois La Petite Sirène va être noire, juste le regard dans leurs yeux, ça disait tout en fait.
Voilà, c'est ça. C'est en fait, c'est indispensable pour le bon fonctionnement de l'enfant. C'est indispensable pour la structuration d'un peuple, d'une nation. Le fait de pouvoir se retrouver d'un point de vue valorisant en masse. Par exemple, juste pour cet exemple-là, il nous montre plein, plein, plein de problèmes qu'on n'a pas réglés. Premièrement, qu'on n'a pas l'habitude de voir des actrices noires en rôle principal dans des grosses productions. Si on avait l'habitude, toutes ces jeunes filles n'auraient pas fait ces vidéos. Elles auraient dit, ouais, normal, comme on
Bien
dit,
sûr.
quoi. Deuxièmement, donc là, en l'occurrence, la petite sirène, à l'époque, il y avait beaucoup de, oui, c'est une histoire scandinave ou je sais plus
C'est
quoi,
ça.
d'où et tout. Donc, peut-être que la petite sirène de Disney vient du Nord, mais la logique de sirène, les histoires, la mythologie de la sirène, en termes d'antériorité historique, on a de quoi faire en Afrique.
Oui.
Les histoires de mamie, les histoires d'esprit, dans l'océan, les chants que certains, etc. Ça, il y a plein d'histoires comme ça en Afrique. Il y a plein de contes en Afrique. Il y a plein de récits comme ça en Afrique. Bien, bien, bien plus anciennes que cette histoire connue de la petite sirène de Disney. Donc, le monde, il est comme ça. Le monde, il ne fait que s'inspirer d'autres choses, ne fait que reconduire certaines choses. Mais il faut pas non plus oublier, premièrement, d'où l'idée je sais pas si ça vient de base dans l'Afrique, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que en Afrique, il y a beaucoup d'histoires comme ça, qui sont très anciennes. Faut pas oublier, des fois aussi, faut rendre à César ce qui appartient à César, entre
Bien
guillemets.
sûr.
Ou, Mamadou, enfin, tu vois, t'as compris. Ce que je veux dire, c'est que, il y a, souvent, on emprunte à une communauté, on efface, non, et on dit, ouais, ça vient de nous, et à partir de maintenant, ce sera comme ça. Alors que non, les gars, faites vos recherches,
Bien sûr.
respectez tout le monde.
Bien
Et
sûr.
l'idée, c'est d'être en conflit, en compétition, et être, exclure les autres communautés, être en conflit, etc. L'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est que chacun puisse jouir
Bien
de
sûr.
sa propre histoire et de sa propre représentation, en fait. Et vouloir tendre à ça ne veut pas dire être dans l'exclusion des autres, rentrer en conflit, vouloir toi t'es chez toi, moi je suis chez moi. Non, c'est que je pense qu'il y a de la pour tout le monde aujourd'hui. Donc, on devrait tous pouvoir être représentés de manière valorisante, on devrait tous, à un moment donné, être en rôle principal dans des très, très belles histoires, et on devrait tous pouvoir inspirer de manière positive nos enfants.
Non, c'est beau ce que tu dis même par rapport à l'Égypte. Quand tu disais qu'on a effacé l'histoire et après qu'on a dit maintenant l'histoire c'est comme ça, tu peux prendre l'exemple de l'Égypte. Quand tu prends l'Égypte ancienne, bah on était là, tu vois. On nous a effacés, on n'existe plus. Et moi j'aime bien justement Michael Jackson, tu sais, quand tu regardes le clip Remember the Time avec Eddie Murphy, etc. Ça c'était quelque chose d'extraordinaire. Personne ne s'attendait à ça en fait.
Et apparemment, il avait demandé que Spielberg ou je
Ouais,
sais
le
plus
réalise.
qui,
Financement, oui.
donc il a mis ses propres fonds pour faire ce film. Il a bossé avec Singleton, je crois, John Singleton, et les stars que tu as cités. Et il a fait un film, et il a fait ben, un film, pour moi,
Bien sûr, c'est un
c'est
film.
extraordinaire, et personne ne l'a refait. Donc, c'est. Voilà, après l'idée, parce que souvent, on entend, ouais, vous êtes des afrocentristes, ouais, vous, En fait, c'est souvent ça, hein, d'ailleurs, hein, pour noyer le poisson et ne plus écouter le fond, on entend des histoires d'afrocentrisme, complotistes, on nous écoute plus, et
Bien
pour
sûr.
nous censurer, on nous balance ce genre de mots. En fait, l'idée, c'est même pas de tout recentrer sur l'Afrique ou quoi, c'est de. Par exemple, il y a des personnalités qui, elles, sont appréciées et qui sont même apprises à l'école et tout. Donc, on a des intellectuels grecs, parce que la Grèce est censée être l'endroit où est née la réflexion, la démocratie. Et bah, on a des personnes de ces périodes-là qui expliquaient elles-mêmes. Il y a donc ça, il y a plein de témoignages comme ça, il y a plein de livres, il y a plein de citations où on réalise que ces personnes qui sont elles-mêmes très valorisées dans la culture occidentale, ces personnes elles-mêmes expliquaient que leur grande inspiration, leur grand respect, elles témoignaient de leur grand respect pour l'Afrique et pour l'Égypte.
Bien sûr, oui.
Ces personnes-là, bien avant les périodes de la colonisation, ou même certaines fois pendant ces périodes où, bah, en fait, on était dans une ère de racisme décomplexé et de mercantilisme infernal. Enfin, bon. Même des fois dans ces périodes-là, et bah, ces personnalités arrivaient à expliquer de manière objective d'où venaient certaines connaissances. Elle restituait la valeur du noir. À cette époque-là, la valeur du noir, elle
Bien
n'était
sûr.
pas au mieux. Donc, voilà, c'est pas une histoire d'afrocentrisme, c'est pas une histoire de nous, c'est mieux, vous, c'est moins
Bien sûr.
bien. C'est une histoire de, voilà, essayons d'être un minimum ouvert d'esprit. Essayons d'être un minimum respectueux des autres. Et voilà, comme on dit, ta liberté s'arrête là où commence celle des autres. Moi, j'ai le
C'est
droit
ça.
aussi de vouloir me valoriser, de mettre en avant mon histoire, de mettre en avant mes personnalités, mes héros. Et toi, tu as le droit, mais sans que ça empiète sur moi, quoi.
Mais j'aime beaucoup parce que tout à l'heure au début tu parlais, c'était souvent une question d'habitude parce que les gens ne sont pas habitués à voir tel personnage noir ou tel quelque chose comme ça. C'est comme ça me fait penser à la polémique qui est en ce moment sur Aya Nakamura qui va peut-être chanter pour les JO. Comment toi tu réagis par rapport à ça? On est où?
Malheureusement, on n'est même plus surpris. À chaque fois qu'il y a ce genre de faits divers, on n'est même plus surpris. On est bien évidemment dans une société raciste, mais l'idée, c'est que personne n'a envie de se voir traité de raciste. Donc, on invoque des raisons qui sont vraiment ridicules pour essayer, bah là, en l'occurrence, de dévaloriser Aya Nakamura. On invoque, oui, elle écrit mal, oui, elle est vulgaire. Alors j'ai vu, oui, elle est violence conjugale ou je sais pas quoi. Est-ce qu'elle a été condamnée? J'en sais rien. Mais en tout cas, on fait correspondre le nom Aya Nakamura à des choses qui sont dévalorisantes.
Bien sûr.
Alors déjà, les gars, parce que moi, on en parle, donc ça me permet peut-être de m'exprimer, mais c'est vrai qu'au jour le jour, j'essaie de passer, parce que franchement, si je m'arrêtais à chaque fois, je pèterais ma tête, quoi. Mais bon, les gars, donc toutes ces personnalités de la musique et de la chanson française, donc toutes les listes là, que soi-disant, eux, ils sont super bien acceptés et eux devraient être la figure de française lors des JO et tout. Et tous ces gens-là n'ont aucune condamnation, sont des vierges Marie. Il y a eu combien d'histoires extraordinaires qu'on en des dingueries qu'on en même la Edith Piaf elle-même.
Bien sûr.
Il y a des choses tout belles. Bref, j'ai pas envie non plus
De rentrer
de
dedans, oui, je comprends.
salir des monuments. J'ai pas envie de rentrer dedans. Mais ce que je veux dire, c'est que ce sont des faux arguments. Elle écrit pas, mais elle sait pas écrire. Mais qui sait vraiment écrire? Et d'ailleurs, qui es-tu pour dire qu'elle écrit pas?
Bien sûr.
Moi, pour très bien, elle répond en fait à une génération qui kiffe tout simplement
Bien
comment elle
sûr.
parle, comment elle s'exprime. Toi, si tu connais, si tu sais pas, ça veut dire quoi, Pookie ou je sais pas quoi, eh ben c'est toi. Mais qui a dit que des millions d'autres jeunes ne vont pas comprendre ce que ça veut dire Pookie? Qui t'a dit qu'elle savait pas écrire? Peut-être que justement, elle écrit de sorte à être la première française la mieux, la plus écoutée au monde.
Bien sûr, allez, oui.
Pour moi, c'est des faux arguments. Et heureusement, parallèlement à toutes ces personnes qui vont sur les réseaux sociaux ou sur les plateaux télé pour salir son nom, et qu'au final, on se rend bien compte que l'air de rien, derrière, il y a un peu toujours cette dimension raciste. Heureusement que par rapport à eux, il y a des gens qui s'expriment et qui expliquent clairement que non, il y en a, comme on voit, c'est l'une des personnes les mieux placées, vu que lorsqu'on regarde son influence, lorsqu'on regarde ses chiffres, lorsqu'on regarde même la. Elle est parfaite. Elle est
Bien
parfaite.
sûr. Mais moi, la seule chose qui me gêne, tu sais, c'est quand je regarde les plateaux télé en ce moment et qui parlent de cette affaire de Aya Nakamura. Mais tu regardes dans les plateaux télé, tu dis, mais il y a. Le problème est sur le plateau en lui-même, parce qu'il y a un manque de représentation dans les plateaux. C'est que des hommes blancs ou des femmes blanches qui en parlent. Tu dis, mais on n'est pas crédible, les gars.
Je crois qu'ils ne s'en rendent même plus compte. Nous, on le voit parce que, l'air de rien, on est victime de ce postulat. Mais eux, dans leur toute puissance et dans leur toute dans ce privilège dans lequel ils baignent, ils s'en rendent même plus compte, je crois. Et après, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que ce genre de polémique les fait exister.
Bien sûr.
On les voit sur un plateau télé, ça reste une chaîne, ça reste une émission. Ça, en fait, c'est du business. Pour que ça tourne, il faut qu'on ait des choses à raconter, même quand elles sont racistes. Plus c'est raciste, d'ailleurs, plus les gens ils vont plus
Bien
ça va
sûr,
faire des
impliqué.
vues. Les articles dans des unes ou quoi, faut que le truc vende. Faut que ça se. Donc, je pense qu'il se conforte dans cette posture de critiquer gratuitement, superficiellement, tout en étant entre eux, l'air de rien. Je pense que c'est un système, c'est une équation, c'est un truc qui fonctionne bien.
Bien sûr, oui.
Donc, voilà, nous, en l'occurrence, on est souvent victime de propos racistes, on est souvent victime de sous-représentation. Mais malheureusement, c'est peut-être que c'est pas bénef pour nous, mais c'est bénef pour eux en tout cas.
Bien sûr, oui. Mais après, j'ai l'impression que toi, de ton côté, tu essaies de faire avancer les choses. Tu as créé Kissy ta film il y a pas longtemps. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? C'était quoi, pourquoi?
Juste avant la création de ma boîte de production qui s'appelle Kista Films, je produisais, en fait, c'était ça que je faisais. Je produisais, je réalisais les choses en auto-entreprise, quoi.
En indé.
J'étais indépendant, voilà. Mais bon, déjà, premièrement, il faut un minimum de structuration pour créer, surtout quand tu es en France. En France, il faut vraiment répondre à tel appel d'offres, envoyer ton numéro de SIRET. Il y a plein de dossiers à déposer administrativement. Voilà, il faut gérer. Donc, quand tu es indé, eh ben, tu n'existes pas. Ensuite, plutôt que de rester dans une position un peu attentiste et victimaire, tu vois, oui, on n'a pas de rôle,
C'est
nanana,
ça.
et bah donnez-moi le rôle, moi je suis là et tout. Très tôt, comme je te disais, je me suis mis en scène, j'ai écrit, je me suis rapproché de collègues et j'ai essayé de mettre en place des choses. Donc c'est dans la même idée, en fait, c'est dans la même lignée. La création de cette boîte de prod, c'est ma volonté d'aller plus loin et donc me concernant personnellement, c'est vrai que artistiquement, j'ai tendance à mettre en avant des histoires noires, des rôles noirs valorisants, noirs français, noirs au-delà de la France, donc en Afrique aussi, par exemple. D'ailleurs, j'ai deux projets qui avancent bien et des projets magnifiques. Je suis sûr que quand ça va sortir. Mais c'est vrai que, notamment, il n'y a pas que ça, mais c'est vrai que, notamment, ça met en avant les histoires noires, ça met en avant des castings noirs. Et donc voilà, c'est comme ça que Kista Films. Est né. Et en fait, j'avais fait une petite soirée où je disais de lancement pour mon entreprise. Et une des phrases que j'avais c'était je crois que c'est Confucius qui disait, une image vaut 1000 mots. Donc, d'un bon film, quid d'une bonne série? Tu prends n'importe quel livre d'histoire, donc tu le feuilles, tu le feuillettes, tu le lis, tu. Tu apprends des choses. Tu prends un bon film que tu aimes, donc je sais pas, l'acteur, tu l'aimes bien, ou l'histoire, tu l'aimes bien. J'en suis persuadé que tu retiendras beaucoup plus vite et beaucoup plus, de manière beaucoup plus efficace dans le long terme, ce que tu auras vu à travers ce film, quoi. Je me souviens par
Bien
exemple
sûr.
une anecdote, j'avais regardé avec donc un ami à moi, Azed Aboudrar, là, dont j'ai. Que j'ai cité plus tôt, qui est aussi acteur et qui a coproduit notamment L'art de la guerre des sexes, ont regardé des épisodes de Vikings.
Oui.
Et Vikings, c'est une série sur. Donc c'était sur Netflix, je
Ouais,
crois.
Netflix à l'époque, oui.
Ragnar et tout, voilà, la vie des Vikings et tout, mais c'est une fiction. C'est une fiction. D'accord, c'est sur Netflix, c'est une fiction. Et donc, je discutais avec mon pote, et à un moment, pendant qu'on regardait, mon pote, il dit, ah ouais, Ragnar, il était comme ça, il ressemblait à ça, c'est dingue. Et je le regarde direct, je fais, mais. Alors, il fait, non, 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 mais oui, c'est une fiction, je sais. Et
Mais
donc, rien que cette interaction, elle m'a montré la puissance des
du
images.
cinéma,
Ça veut dire
bien
que.
sûr.
L'image est plus forte que ton intellect. L'image est plus forte que ta raison. Tu peux te dire pendant toute ta vie, toute la journée, tu peux te dire, Jésus n'était pas blanc avec le brushing, avec le petit bouc rasé, nanana. Tu peux te le dire 100 ans. Et bah, quand tu parleras de Jésus, tu auras l'image des
Que t'as
films,
vu.
tu auras l'image des représentations, tu sais, le beau gosse, un peu Brad Pitt. C'est cette image-là que tu auras. L'image est plus forte que la raison.
Bien sûr, oui. Non, c'est très important.
Dans cette réflexion-là que je me suis dit, il faut qu'on continue à se structurer et il faut qu'on ait des boîtes de production, des réals, des diffuseurs, voilà. Donc sans exclure les autres. Mais vu qu'on est mal représenté, il faut que la structuration, elle vienne de nous-mêmes, quoi.
Non, c'est tout à ton honneur. Là, on arrive dans la partie de l'émission où on parle de promotion. Tu m'as parlé quelques projets tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce qui arrive, où est-ce qu'on peut te suivre pour tenir informé nos auditeurs?
Alors, en tant qu'acteur, là, par exemple, je suis censé partir pendant quelques mois pour la saison 2 de Cacao.
Oh, félicitations.
Merci beaucoup. Et en tant que réal, auteur avec Kista Films, je prépare deux projets. Donc, il y a une série qui s'appelle Origine. Donc, c'est sur la fondation du royaume Congo. Donc, c'est une fiction. Tout à l'heure, je parlais de Viking. Voilà. Il y a un autre projet, donc là, cette fois-ci, c'est un long métrage qui s'appelle Back to Africa. Comme le nom l'indique, comme le titre l'indique, ça parle d'Afrique, ça parlera de France. Il y aura un casting afro, mais pas que, hein, bien évidemment. Il y aura des très beaux rôles aussi caucasiens. Et ça mettra en lumière, ça mettra en valeur la Côte d'Ivoire.
Ah, oh, super. C'est un beau projet, ça. Et
Merci beaucoup.
maintenant, si on parlait de tips, c'est la partie où on donne des conseils un peu. Si on faisait un retour vers le futur, quel conseil tu donnerais au petit Olivier à 8 ans qui veut devenir acteur?
De croire et de miser sur lui. De croire en lui et de miser sur lui.
Ça, c'est un beau conseil, ça.
Oui, c'est ce que, quand j'ai la chance de faire des petites masterclass et tout,
Ouais.
c'est ce que je dis aux gens parce que on a souvent tendance, moi le premier, à vouloir faire comme les autres. Donc je parlais des États-Unis tout à l'heure. Mais en réalité, quand tu pars de toi et de ta passion, tu n'as pas l'impression de travailler.
Bien sûr.
Il y a beaucoup. C'est quand tu essaies de reproduire quelque chose qui t'est extérieur que c'est dur.
Ouais, ils le disent en anglais, c'est fais quelque chose que t'aimes et t'auras l'impression de jamais travailler toute ta vie en fait.
Voilà, c'est plus ou moins ça. Et je pense que on a tous de la valeur, on a tous un truc bien. Donc l'idée, c'est de le valoriser. Et si tu arrives à valoriser quelque chose que tu fais bien, c'est sûr que ça va intéresser autrui.
Bien sûr, ouais. Et ma dernière question, ça serait comme t'as grandi avec une mère guadeloupéenne et un père congolais, du coup, est-ce que tu parles lingala et créole?
Alors malheureusement, non, pas du tout. Mes deux parents m'ont toujours parlé en français.
Ouais.
J'ai d'ailleurs principalement vécu avec ma mère. L'idée, c'est que déjà ma mère elle-même ne parlait pas créole, donc encore moins lingala.
Bien
Et mon
sûr.
père, toute ma famille congolaise, me parle jusqu'à présent tout le temps français, 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 français.
Ouais.
Ouais, c'est
Je connais, je
malheureusement.
Je connais un peu parce que moi j'ai grandi avec des parents congolais aussi. C'est que ils voulaient absolument, ils mettaient l'emphase sur le français. Ça veut dire que ma mère, elle me parlait en lingala, mais moi je devais répondre en français. Et si je répondais en lingala, elle n'était pas contente. Donc quelque part, c'est un mal pour un bien, tu vois.
Mais au moins tu comprends bien, Lingala.
Ouais, au moins je comprends bien, ouais. Au moins je comprends bien. En tout cas, c'était un. T'as dit quoi?
Non, mais je disais, le Lingala, le Kikongo, le Lari, j'ai entendu des bribes, mais
Ouais.
on m'a jamais parlé, on m'a jamais appris. Et quand tu grandis dans un climat, dans une famille où on parle régulièrement la langue, tu l'intériorises, tu
Bien
l'intègres
sûr,
sans
ouais.
t'en rendre compte.
Bien sûr, oui, avec la culture, avec la musique, etc., j'imagine.
Voilà. Et c'est
En tout cas,
là.
Olivier, c'était un plaisir de parler avec toi. Je te remercie d'avoir pris le temps de venir à l'émission, nous parler de ton parcours, de ton histoire. C'est vraiment inspirant. Bonne chance pour tes projets à venir et continue le travail extraordinaire que tu fais. Merci beaucoup en tout cas.
Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation.
Je te dis
À la prochaine.
merci, on se rappelle.
Écoute.
À bientôt Olivier, ciao ciao.
Merci à vous tous, c'était Merci, on vous rappelle, le podcast qui vous dévoile les coulisses du casting. Merci à vous tous, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous écouter. Merci pour la force que vous donnez. N'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux, notamment sur TikTok, Instagram ou encore YouTube. Et encore un grand merci à DJ Hit Combo qui a la réalisation. Maintenant, on se retrouve le mardi, et oui, plus le dimanche, mais maintenant tous les mardis, pour un nouvel épisode. Alors rendez-vous mardi prochain. À bientôt!
Merci à vous tous. C'était Merci, on vous rappelle, le podcast qui vous dévoile les coulisses du casting. Merci à vous tous, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous écouter. Merci pour la force que vous donnez. N'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux, notamment sur TikTok, Instagram ou encore YouTube. Et encore un grand merci à DJ Hit Combo qui a la réalisation. Maintenant, on se retrouve le mardi, et oui, plus le dimanche, mais maintenant tous les mardis, pour un nouvel épisode. Alors, rendez-vous mardi prochain. À bientôt!